VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 18h30 temps universel du jeudi 1er février 2018 au sommaire. L'opposition congolaise réagit avec scepticisme aux déclarations de Lambert Mende annonçant que le président Kabila ne se présentera pas aux élections de décembre.
Il faut prendre avec des pincettes tout ce que le porte-parole de ce gouvernement vous dit parce que combien de fois il vous dira la même chose.
Toujours pas de nouvelles des séparatistes anglophones extradés du Nigeria au Cameroun alors que deux gendarmes ont été tués dans le nord-ouest. Au Kenya, la justice ordonne la réouverture de trois chaînes de télévision fermées par les autorités. Ici aux États-Unis, un rapport rédigé par les républicains incriminant l'FBI fait polémique. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, l'opposition reste sceptique suite à la déclaration du porte-parole du gouvernement sur VOA, selon laquelle le président Joseph Kabila quittera le pouvoir après les élections de décembre 2018 et désignera déjà donc son dauphin en juillet. Eddy Issongo a recueilli la réaction de Jean-Marc Kaboun, secrétaire général de l'UDPS.
Il faut prendre avec des pincettes tout ce que le porte-parole de ce gouvernement vous dit, parce que combien de fois il vous dira la même chose. C'est depuis 2016 qu'il vous disait que Kabila respectera la Constitution, Kabila organisera les élections, mais nous n'avons jamais eu des élections. Il ne faut jamais croire à ce qu'il dit, parce que nous qui sommes au pays, nous vous disons, nous l'avons suivi dernièrement lors de sa conférence de presse, rien n'a filtré dans ce qu'il a dit qui présageait que le monsieur avait l'intention de quitter le pouvoir ou il y aurait des élections dans ce pays. Nous n'avons pas cette certitude parce que les données que nous avons, les signaux que nous avons, nous font croire que Kabila est en train de tournoyer. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Il n'organisera pas des élections. Nous nous organisons aussi parce que bientôt là nous irons au Congrès. Nous allons désigner notre candidat. Nous nous préparons déjà au niveau de la base. Mais la grande question, c'est quel type d'élection on aura, parce que eux, ils comptent sur la machine à voter, qu'on a d'ailleurs nommé machine à voler. Ils comptent sur la fraude qui va s'organiser, les intimidations. Les élections s'organisent dans ce contexte de troubles, de menaces, d'intimidation, donc il ne faut rien espérer dans ces élections. C'est la raison pour laquelle nous avons exigé que l'accord soit appliqué.
C'était Jean-Marc Kaboun de l'UDPS, joint à Kinshasa. Au Cameroun, pas de nouvelles depuis l'extradition à Yaoundé du chef séparatiste anglophone Sissoko Ayok Tabé. Deux nouveaux gendarmes ont par ailleurs été tués dans le nord-ouest. Des précisions avec Raissa Gironde.
Depuis leur arrestation au Nigeria le 5 janvier dernier et leur extradition au Cameroun, on reste sans nouvelles du leader sécessionniste Sissoko Ayok Tabé et d'une quarantaine de partisans. Leurs avocats disent avoir essayé en vain de les rencontrer depuis leur extradition. Nous donnons jusqu'au 5 février pour montrer une preuve de vie. Après cette date, nous supposerons que tous nos dirigeants sont morts, a déclaré Chris Anou, un membre du gouvernement autoproclamé de l'Ambazonie. Par ailleurs, deux gendarmes ont succombé à leurs blessures aujourd'hui après une attaque dans la localité de Bingo, attribuée aux séparatistes. Beaucoup de gens en région anglophone veulent une réponse militaire, selon un responsable indépendantiste. D'autres souhaitent un dialogue inclusif entre le gouvernement camerounais et le leader séparatiste pour éviter l'escalade vers une guerre civile.
Au Nigeria, les combattants de Boko Haram ont tué au moins 5 coupeurs de bois dans le nord-est du pays. Cette tuerie fait suite à une série d'attaques perpétrées contre des bûcherons accusés par le groupe djihadiste d'être des espions. Mardi, 9 hommes armés ont attaqué un groupe de 28 coupeurs de bois dans la périphérie de Dikwa, dans l'état du Borno. Par ailleurs, un attentat suicide a fait 4 morts hier soir dans un camp de déplacés à Maiduguri, la capitale de l'état du Borno. Au Kenya, la haute cour a ordonné l'autorisation temporaire de 3 télévisions fermées par les autorités pour avoir bravé l'interdiction de retransmettre l'investiture de l'opposant Raila Odinga. Blanche Sanou.
L'ordonnance a été adressée par le juge Chacha Muta. Il prévoit un sursis de 2 semaines afin d'examiner la requête des chaînes privées Citizen TV, NTV et KTN News. Ces stations ont été fermées mardi matin alors qu'elles retransmettaient la cérémonie de prestation de serment de M. Raila Odinga comme président du peuple. Le président kenyan Uhuru Kenyatta avait expressément menacé de fermer tout média qui diffusait la cérémonie. Ce blocage de chaînes de télévision constitue, selon le Human Rights Watch, une violation du droit à l'information. C'est un très triste moment pour la liberté de la presse dans ce pays, a ajouté Tom Shindi, rédacteur en chef au Nation Media Group. Le Media Council du Kenya se dit choqué par la tournure récente des événements. Par ailleurs, un député de l'opposition a été arrêté pour avoir supervisé la cérémonie d'investiture de l'opposant Odinga.
En Afrique du Sud, quelques 950 mineurs étaient bloqués sous terre ce jeudi dans une mine d'or à la suite d'une coupure d'électricité provoquée par une tempête, ce qu'a annoncé la compagnie propriétaire de la mine, assurant qu'il semblait être en bonne santé. Le générateur de la mine, censé prendre le relais en cas de coupure d'électricité, ne fonctionne pas, a reconnu un responsable de la compagnie. Au Maroc, une cellule composée de 7 membres liés au groupe djihadiste État islamique a été démantelée à Tanger et Meknès. Les suspects, qui planifiaient de rejoindre les rangs d'une branche de l'EI, sont accusés d'avoir diffusé de la propagande et planifié des attaques visant des personnes et des biens, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. En Libye, les milliers de déplacés de la ville de Tawarga ont été empêchés de rentrer chez eux par des groupes armés en dépit d'un accord préalable. Le gouvernement d'Union nationale avait annoncé en décembre le retour de ces déplacés début février, conformément à un accord conclu entre représentants de la ville et celle de Misrata, à 200 km à l'est de Tripoli. Ces déplacés étaient contraints à un exil massif après leur soutien en 2011 à l'ex-dirigeant Muammar Kadhafi. Emmanuel Macron a appelé les entreprises françaises à investir en Tunisie avec l'objectif d'un doublement des investissements français d'ici 2022 et aider ce pays à relancer son économie. Il a fait cette annonce en clôturant le Forum économique Tunisie-France auquel participaient une centaine d'entrepreneurs français. Emmanuel Macron est attendu à Dakar ce soir pour une visite de 3 jours au Sénégal.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, la Maison-Blanche doit décider aujourd'hui si elle rendra publique ou pas une note confidentielle d'un parlementaire républicain qui accuse le FBI de partialité dans l'enquête sur la campagne de Donald Trump en 2016. Les précisions de Jacques Aristide.
Ce mémo top secret émane de la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Le FBI a défendu son intégrité en mettant en doute la véracité de la note. Le département de la justice a estimé que sa diffusion pourrait compromettre des informations classifiées. Devin Nunes, le président républicain de la commission parlementaire, juge fallacieux de tels arguments. Les élus démocrates ont dénoncé un usage sélectif d'informations afin de discréditer l'enquête sur une collusion présumée entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie et afin aussi de limoger le procureur spécial Robert Mueller et le numéro 2 du département de la justice Rod Rosenstein. D'après le démocrate Adam Schiff, les républicains ont modifié le mémo avant de l'envoyer à la Maison-Blanche. Des républicains répondent qu'il s'agit de changements mineurs. Donald Trump, dans un aparté avec un élu mardi soir, a assuré qu'il donnerait son accord à 100% pour déclassifier la note. Donc, la balle est toujours dans le camp de la Maison-Blanche et il suffira d'attendre.
On reste ici aux États-Unis où la police d'une localité du Michigan s'est excusée d'avoir raté il y a 14 ans les abus sexuels du docteur Larry Nassar qui a pu continuer pendant plus d'une décennie à agresser sexuellement des centaines de jeunes gymnastes. La police de Meridian Township a publié un rapport d'enquête établi en 2004 après une plainte d'une jeune femme de 17 ans contre Larry Nassar. La police avait alors interrogé le docteur, mais avait refermé le dossier sans donner de suite. La police estime qu'il a agressé au moins 265 jeunes femmes pendant 20 ans. Nassar a été condamné à plus de 100 ans de prison. Et en Grande-Bretagne, l'homme qui avait lancé une camionnette contre les musulmans à Londres en juin dernier a été reconnu coupable de meurtre et tentative de meurtre ce jeudi par le tribunal de Woolwich. Darren Osborne avait tué un homme et en avait blessé 12 autres. Un tribunal d'Istanbul a décidé de maintenir en détention le président d'Amnesty International en Turquie, moins de 24 heures après avoir ordonné sa remise en liberté conditionnelle, une décision qui était contestée par le parquet. Tarek Kılıç a été arrêté en juin 2017. Il est incarcéré depuis, accusé d'appartenir au mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, désigné par Ankara comme le cerveau du putsch manqué de l'été 2016, ce qu'il nie fermement. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à l'actualité économique, la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manerakiza.
Au Zimbabwe, le ministère des Terres a prolongé de 5 à 99 ans le bail des fermiers blancs épargnés par la réforme agraire controversée de Robert Mugabe. En décembre, le nouveau président Emmerson Mnangagwa a ordonné l'évacuation des fermes occupées illégalement et la restitution de terres confisquées à un fermier blanc. Le pays compte actuellement quelques 200 fermiers blancs en activité. La compagnie tunisaire a enregistré une hausse de 29% de ses revenus en 2017. Ses recettes sont passées de plus de 995 millions de dinars à plus d'un milliard de dinars. L'accroissement de 16% du nombre de passagers a permis cette dynamique. Par contre, les charges financières ont augmenté de 4% et les dettes de 7%. La Banque centrale américaine a maintenu ses taux, mais Janet Yellen, qui présidait hier sa dernière réunion à la tête de la Fed, a lancé un avertissement sur la remonte de l'inflation cette année. Le comité monétaire note que l'activité économique a progressé à un rythme solide et souligne les robustes gains d'emploi, de même que les dépenses des ménages et investissements des entreprises. En décembre, la Fed a augmenté ses taux d'un quart de point. La prochaine réunion se tiendra en mars sous la houlette de Jerome Powell, qui prendra lundi les rênes de la Fed.
Et on passe à la page des sports avec vous, Nicolas Pineau. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir, Abdulrahman. Bonsoir à tous.
Maroc-Nigeria, ce sera l'affiche de la finale du CHAN 2018.
Et oui, le Maroc, le pays organisateur qui s'est qualifié, il faut le dire, dans la douleur pour la finale. Les Lions de l'Atlas qui pensaient hier avoir fait le plus dur en ouvrant le score par El Kaabi à la 73e minute de jeu contre la Libye. Mais les Chevaliers de la Méditerranée ont égalisé en toute fin de match, 90e minute de jeu par Kelafa. On a dû jouer les prolongations à Casablanca. Et finalement, El Kaabi qui libère tout un peuple. Il inscrit le deuxième but, suivi par Adraf qui conclut victoire 3 buts à 1 pour les Marocains. La seconde demi-finale, elle opposait le Nigeria au Soudan à Marrakech. Et ce sont les Super Eagles qui se sont qualifiés 1 but à 0. Le point avec Amine Birouk qui revient sur ce match pour VOA Afrique.
Un succès qui s'est esquissé dès la 16e minute grâce à Okwesioku. Pourtant, les Nigérians n'ont pas totalement maîtrisé leur sujet ce mercredi, concédant de nombreuses occasions soudanaises, notamment après l'expulsion d'Efaini peu avant l'heure de jeu. Toutefois, les hommes de Salisu Youssouf ont su faire le dos rond devant les assauts adverses, des assauts souvent dangereux, mais que les représentants du football d'Afrique de l'Ouest ont su juguler. Les Soudanais peuvent nourrir des regrets ce mercredi, d'autant plus qu'ils avaient semblé plus fringants au fur et à mesure que l'on avançait dans ces demi-finales. Les Nigérians, quant à eux, peuvent rêver d'un nouveau sacre continental, le premier de leur histoire dans ce championnat d'Afrique des Nations. Mais il faudra pour cela proposer une prestation plus convaincante dimanche devant les Lions de l'Atlas. Depuis Casablanca au Maroc, Amine Birouk pour VOA Afrique.
La Mauritanie n'a plus d'entraîneur pour ses joueurs locaux.
Oui, Corentin Martins qui a été démis hier de son poste de sélectionneur de l'équipe de Mauritanie locale, composée des joueurs qui évoluent en Mauritanie, après évidemment l'élimination au CHAN 2018. Mais le Français conserve la tête de l'équipe nationale. Son maintien s'explique par la préparation pour les éliminatoires de la CAN 2019, avec notamment une victoire à l'extérieur face au Botswana.
Enfin, victoire pour les athlètes russes accusés de dopage.
Oui, le tribunal arbitral du sport a infligé un camouflet au Comité international olympique avec l'annulation totale de ses sanctions à l'encontre de 28 sportifs russes, créant la confusion à 8 jours de l'ouverture des Jeux olympiques en Corée du Sud. Pour cause de dopage institutionnalisé, les Russes s'étaient vus retirer par le CIO 13 médailles, dont 4 en or, remportées à Sochi lors des Jeux olympiques de 2014. Après la décision du tribunal arbitral du sport, ils en récupèrent 9, dont 2 en or, et retrouvent la tête du tableau des médailles.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Étienne Tshisekedi mérite le titre de héros, comme Lumumba et tous les autres qui se sont battus pour la RDC, a indiqué Monseigneur Gérard Moulumba, le frère de Tshisekedi, à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de sa mort. La dépouille de l'opposant congolais n'a toujours pas été ramenée dans son pays 12 mois après son décès à Bruxelles. Et quelques incidents ont émaillé la fin de la célébration de la messe organisée par sa famille biologique et son parti politique. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La famille biologique d'Étienne Tshisekedi, son parti politique l'UDPS basé à Limété ainsi que les membres du rassemblement avec à leur tête Félix Tshisekedi ont commémoré l'an 1 de sa mort à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala. L'officiant du jour, Monseigneur Gérard Moulumba, le frère d'Étienne Tshisekedi, a dit dans son homélie, je cite, « Sans peur, nous pouvons illustrer Étienne Tshisekedi comme héros qui s'est donné dans tous les domaines sociaux et saluer plus particulièrement son patrimoine. Il a prêché la non-violence jusqu'à sa mort. » Fin de citation. Monseigneur Gérard Moulumba a par ailleurs dit espérer que les autorités politiques de la RDC finiront par rapatrier son corps et organiser des funérailles qu'il mérite. Malheureusement, au sortir de la cathédrale, des militants et sympathisants de l'UDPS ont été dispersés à coups de tirs de sommation et des gaz lacrymogènes alors qu'ils suivaient le véhicule de Félix Tshisekedi qui se dirigeait à la permanence du parti à Limété où une matinée politique était prévu pour commémorer ce premier et triste anniversaire. Parallèlement à la famille, Valentin Moubaké à Notre-Dame d'Afrique dans la commune de Lagombé et Bruno Tshibala Nzenze, le premier ministre à Notre-Dame de Fatima dans la commune de Lagombé, tous deux anciens collaborateurs de Tshisekedi ont également organisé, chacun en ce qui le concerne, une messe en mémoire de Tshisekedi. Un an après sa mort à Bruxelles, la famille politique et biologique d'une part et le gouvernement de l'autre se rejettent toujours la responsabilité du non-rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi wa Moulumba. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.7 à Kisangani.
La crise dans le nord-est du Nigeria a provoqué le déplacement des milliers de personnes. Même aux environs d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, il existe encore des camps. Gilbert Tamba, notre correspondant, s'est rendu sur place. Voici son reportage.
Plus de 1500 personnes déplacées vivent encore dans le camp de Durumi à la périphérie d'Abuja. Avant leur fuite, ils étaient enseignants, pharmaciens, tailleurs, commerçants ou alors mécaniciens. Aujourd'hui, ils ont du mal à accéder même à la nourriture, à l'éducation et à leurs besoins les plus élémentaires. C'est le cas d'Adamu Tahala. Il était couturier, propriétaire d'un atelier de couture à Borno avant la crise. Maintenant, il se débrouille avec une seule vieille machine pour survivre.
Ils sont venus et ils ont commencé à brûler les églises et ont assassiné des innocents. Ensuite, ils ont attaqué des mosquées, tuant des gens juste comme ça. C'est ainsi qu'on a compris qu'ils étaient des membres de Boko Haram.
Selon les autorités fédérales, l'armée nigériane a considérablement réduit la menace de Boko Haram dans le nord-est du pays. Cependant, les effets néfastes du groupe terroriste sont toujours ressentis et Abuja abrite ainsi depuis près de 4 ans des camps de déplacés. À ce jour, seules les organisations humanitaires et certaines confessions religieuses apportent de l'assistance à ces déplacés. La situation sanitaire est aujourd'hui critique dans ces camps à cause du manque de produits pharmaceutiques. Philemon Emmanuel est le chef de ces camps.
Il y a bientôt 4 années que nous sommes ici et nous faisons face à de nombreux défis. Nous n'avons pas d'hôpital, même si l'ambassade a donné un kit médical, il n'y a pas de médicaments et il n'y a pas de travail.
Alerie Issa est mère de 2 enfants. Pour elle aussi, les défis à relever dans ces camps sont énormes.
Nous sommes confrontés à beaucoup de conditions difficiles ici. Par exemple, nos enfants ne vont pas à l'école. Les cases où nous dormons sont détruites et le plus grand problème, c'est que nous n'avons pas de nourriture.
La plupart des habitants de ces camps viennent du même district de Goza dans l'état de Borno. Quelques-uns sont originaires de l'état d'Adamawa dans le nord-est du Nigeria, principale zone où Boko Haram mène des attaques meurtrières depuis plusieurs années. On compte toujours environ 1,6 million de personnes déplacées dans le nord-est du Nigeria, où l'immense majorité se trouve à Maïdougouri et des états voisins. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ouverture de la troisième conférence de reconstruction des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation à Dakar. La conférence sera co-présidée par le président Macky Sall et son homologue français Emmanuel Macron. L'objectif est de recueillir 3,1 milliards de dollars pour la période 2018-2020. Claire Morin-Jubourg a joint à Dakar le militant de l'ONG One qui a fait le déplacement pour la conférence. Il s'agit de Pierre Jotti.
L'objectif de notre présence ici, c'est de mobiliser les dirigeants du monde et notamment, pour moi, le dirigeant français sur l'éducation et les nécessités de financement de ce secteur qui a été délaissé depuis quelques années, notamment par la France, en termes d'aide au développement. Et donc, l'idée, c'est que cette conférence soit un tournant pour l'éducation et notamment l'éducation des filles qui est au centre de ma plaidoyer avec WAN.
Quels vont être vos arguments? Comment vous allez essayer de convaincre Emmanuel Macron de mettre plus d'argent dans l'éducation des jeunes Africains?
Déjà, tout d'abord, il faut savoir qu'il a lui-même annoncé comme étant une de ses priorités l'éducation des filles et la formation des maîtres, à plusieurs reprises, notamment lors de ses dernières visites dans différents pays africains. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que, après les paroles, les actes suivent. Et donc, on met en avant l'idée que qu'actuellement, il y a 130 millions de filles qui n'ont pas accès à l'éducation aujourd'hui. Et on veut mettre en avant ces jeunes filles pour dire que ce n'est pas normal qu'en 2018, il y ait encore ce type de situation et qu'il est temps de se mobiliser collectivement pour arriver à faire de ce droit une réalité universelle.
Alors, la conférence vise à récolter 3,1 milliards de dollars pour la période 2018-2020. Est-ce que vous ne placez pas la barre un peu haut?
Eh bien, en fait, ça a été évalué pour répondre déjà aux besoins des pays qui sont soutenus, des 65 pays qui sont soutenus actuellement par le Partenariat mondial pour l'éducation. Et en fait, on voit que dans d'autres secteurs, ça a pu marcher sur la santé, le Fonds mondial de lutte contre certaines maladies évitables comme le paludisme ou autre. Ça a marché de la mobilisation collective, donc nous, on aimerait pousser aussi pour le financement de l'éducation. Pendant cette conférence, je souhaitais expliquer rapidement que hier, en fait, on a écrit un discours, on fait partie du coup des jeunes ambassadeurs de WAN et ambassadrices, on fait partie d'une délégation des jeunes durant cette conférence. Et avec les autres jeunes de différentes organisations, on a écrit un discours de solidarité qui va être lu aux dirigeants vendredi durant l'Assemblée plénière. Voilà une partie de notre travail durant cette conférence.
C'était Pierre Jotti, jeune ambassadeur de l'ONG One à Dakar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La force mixte multinationale qui combat Boko Haram dans la région du lac Tchad continue de libérer des otages, mais les personnes libérées des griffes de Boko Haram n'ont pas encore livré leur dernière bataille. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka à Zamaï, dans le nord du Cameroun, rendu par Anastasie Toudiech.
Quatre jeeps de la force multinationale viennent d'arriver à Zamaï, un village dans le nord du Cameroun, frontalier avec le Nigeria. 16 personnes qui étaient otages de Boko Haram sont dans les véhicules, dont Lamine Mamoudou.
Les gens de Boko Haram sont venus à Gouzdavreket pour nous ramener ça au Nigeria, à Tchénéné. On a fait 2 ans là-bas. On souffre seulement. On ne donne pas nous à manger. Il n'y a pas l'argent. Nous sommes très sales, il n'y a pas de l'eau même. L'eau même, on boit ça pour le marigot. Le maladie même, c'est quantité de maladies. Beaucoup de gens, les maladies sont tuées quand même. Si tu es parti là-bas, même si tu es un païen, c'est obligé de prier. Si tu ne pries pas, on va te tuer là-bas.
Âgé de 39 ans, Mamoudou a été libéré le 26 janvier pendant une opération menée par l'armée camerounaise. Le groupe dont il faisait partie rejoint des centaines d'anciens otages qui se trouvent dans deux camps à Zamaï. Astafou Hamadou a réussi à s'échapper d'un camp de Boko Haram en même temps qu'une trentaine d'autres femmes.
Rien pas dans notre maison, c'est seulement sur la route. Quand on t'est trouvé sur la route, là, on t'est fouette. On a trouvé la gale là-bas, la maladie des gales, parce qu'il n'y a pas l'eau à boire et tu te laves, il n'y a pas. C'est ça, la souffrance. À minuit, on est venu ici à Mozogo. On fait deux jours là-bas, aux routes, pour arriver à Mozogo.
Les ex-otages veulent rentrer dans leur village, mais un responsable du gouvernement camerounais dans la région, Julien Martial Haas, se veut prudent.
On les appelle dans notre jargon les présumés ex-otages de Boko Haram. Nous avons mis ces personnes en confiance au regard de la résurgence de l'insécurité qui sévissait déjà dans notre arrondissement. Nous avons constaté que plus ils étaient ici, plus nous étions la cible de la secte. Et il nous a été instruit de conduire ces personnes à l'intérieur du pays plutôt que de les laisser ici à la frontière.
Le nombre exact d'hommes, de femmes et d'enfants enlevés par Boko Haram depuis le début de l'insurrection en 2009 n'est pas connu. Mais il pourrait être des milliers. Une offensive des forces régionales en 2015 a permis de récupérer de larges portions du territoire qui était sous le contrôle du groupe djihadiste. Dans l'extrême nord du Cameroun, la crainte des attentats suicides est réelle. Mais cela n'empêche pas l'élan de solidarité envers les personnes fuyant les atrocités de Boko Haram. Ibrahim Amawa est un chef coutumier à Zamaï.
S'ils seront là jusqu'à la saison pluvieuse, nous allons leur préparer des champs qu'ils vont travailler comme tous les autres, les premiers venants.
Sa localité continue d'accueillir d'anciens otages. En décembre, 400 d'entre eux étaient dans les camps de Zamaï. Et un mois plus tard, le chiffre a grossi à 600 au moins.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa.
Voilà, fin de cette édition. Merci à Cheikh Kero qui l'a réalisé à la console Nashwal Kale. Présentation Abdourahman Dia. C'est le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell.